France Inter.
Aujourd'hui, urine, le nouvel or jaune raconté par...
Fabien Esculier, chercheur à l'École nationale des ponts et chaussées, coordinateur du programme de recherche action OCAPI.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Paris jette par an 25 millions à l'eau, et ceci sans métaphore. Comment et de quelle façon, jour et nuit? Dans quel but? Sans aucun but. Avec quelle pensée? Sans y penser. Pourquoi faire? Pour rien. Au moyen de quel organe? Au moyen de son intestin. Quel est son intestin? C'est son égout. La science, après avoir longtemps tâtonné, sait aujourd'hui que le plus fécondant et le plus efficace des engrais, c'est l'engrais humain. Les Chinois, disons-le à notre honte, le savaient bien avant nous. Pas un paysan chinois ne va à la ville sans rapporter aux deux extrémités de son bambou deux seaux pleins de ce que nous nommons immondices. Grâce à l'engrais humain, la terre en Chine est encore aussi jeune qu'au temps d'Abraham. Le froment chinois rend jusqu'à 120 fois la semence. Il n'est plus aucun guano comparable en fertilité au détritus d'une capitale. Employer la ville à fumer la plaine, ce serait une réussite certaine. Si notre or est fumier, en revanche, notre fumier est or. Que fait-on de cet or fumier? Eh bien, on le balaye à l'abîme. On expédie à grands frais des convois de navires afin de récolter au pôle austral la fiente des pétrels et des pingouins et l'incalculable élément d'opulence qu'on a sous la main, eh bien, on l'envoie à la mer. Tout l'engrais humain et animal que le monde perd, rendu à la terre au lieu d'être jeté à l'eau, suffirait à nourrir le monde. Ces tas d'ordures du coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotée de nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, eh bien savez-vous ce que c'est? C'est de la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, du serpolet et du thym, de la sauge, c'est du gibier, c'est du bétail, c'est le mugissement satisfait des grands bœufs le soir, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie. Ainsi le veut cette création mystérieuse qui est la transformation sur la terre et la transfiguration dans le ciel. Ce texte de 1862, intitulé « L'or fumier », est signé Victor Hugo, il est extrait des Misérables. Ce pamphlet écologique sur les excrétions humaines raconte une vieille histoire, vieille comme le monde. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Bonjour Fabien Esculier.
Bonjour.
Ce texte écolo de Victor Hugo, il est d'une grande modernité. Hein.
Oui, c'est un très beau texte, effectivement, sur la question de l'engrais humain. Et on peut revenir très longtemps en arrière à la question de cet engrais humain. Dans ce texte, on dit que les excrétions humaines peuvent représenter un produit utile pour l'agriculture.
Qui suffirait à nourrir le monde,
hein,
Victor Hugo. Hein.
Certains chercheurs, en fait, inversent la question en disant finalement, comment est-ce qu'est apparue l'agriculture? Et il est plausible qu'en fait, des humains qui étaient donc avant la révolution néolithique, chasseurs-cueilleurs, se soient sédentarisés. Ainsi, il y a eu des fertilisations fortes en fait, qui ont été faites par les urines, par les matières fécales des terres juste alentour. Elles sont devenues très fertiles et potentiellement l'agriculture a commencé comme ça. Donc plutôt que dire que les excrétions humaines seraient un produit utile pour l'agriculture, c'est peut-être l'agriculture qui a été historiquement un produit des excrétions humaines.
Quel drôle de départ quand même, hein, pour l'agriculture humaine. Comment un chercheur comme vous, Fabien Esculier, à l'École nationale des ponts et chaussées, donc, s'intéresse un jour à cette question des excréments et de l'urine humaine, hein?
Alors, l'École nationale des ponts et chaussées a travaillé depuis très longtemps sur la question de l'assainissement des villes, donc la gestion, on va dire plus généralement, de l'eau en ville. Je travaille au laboratoire LESU, eau, environnement, systèmes urbains. Et il y a 10 ans, j'ai pu lancer le programme de recherche action OCAPI, qui s'intéresse lui plus spécifiquement aux excrétions humaines en ville. Alors, si on reprend le texte de 1862 de Victor Hugo, à cette époque, il y a un égout qui commence à se développer. Mais l'égout sert à évacuer les eaux pluviales de la ville. Parce qu'on a imperméabilisé la ville, donc il y a beaucoup plus d'eau qui ruisselle, il faut l'évacuer, on évacue l'eau pluviale.
C'est l'époque des grands travaux à Paris.
C'est l'époque des grands travaux haussmanniens. À cette époque-là, il n'est pas du tout dans l'esprit que les urines et matières fécales rejoignent l'égout, car elles rejoindraient la rivière, on perdrait l'engrais, qui est une ressource de fertilisation extrêmement importante, et on polluerait la rivière.
Donc on a vraiment la conscience de ce que ça représente. Hein.
Tout à fait.
C'est un vrai trésor, en tout cas.
Et donc, quand Victor Hugo fait cet appel, on a l'idée de commencer à déployer un tout à l'égout, Mais finalement, le système qui est en vigueur majoritairement à l'époque, c'est une fosse dans laquelle on stocke urine et matière fécale. Et il y a toute une économie, tout un tas de filières qui permettent de valoriser ces urines et matières fécales. Mmh. D'ailleurs, il cite la Chine. À l'époque, les deux régions du monde les plus en avance, on va dire, en termes de cette économie, c'est la Chine autour de Shanghai et les Flandres, dans laquelle il y a toute une économie avec de la transformation, du transport, des marchés noirs, autour de la gestion des urines et matières fécales humaines. Et à Paris aussi, c'est un commerce prospère.
Ouais, on va y revenir avec vous, parce que cette histoire, elle est assez intéressante, et puis elle nous éclaire aussi sur aujourd'hui, Fabien Sculier. Vous disiez donc que vous coordonniez depuis 2015 ce programme OCAPI, qui veut dire donc optimisation des cycles carbone, azote et phosphore en ville. C'est un des tout premiers programmes académiques dédiés précisément à cette valorisation des matières fécales et de l'urine.
Alors effectivement, et si on veut reprendre rapidement le fil historique de ce programme de recherche, l'époque de Victor Hugo était une époque plutôt où on retournait au sol. Dans le début du XXe siècle, Sabine Barle l'a expliqué il y a 10 jours ici
à
même,
ce micro, ouais.
On a eu une linéarisation de l'économie qui a fait qu'en fait la majorité des matières ont été gérées dans des logiques d'évacuation, on va dire, des matières, donc que ce soit les déchets solides, et s'en débarrasser, on va dire, à moindre coût le plus vite possible. Et pour les urines et matières fécales, finalement, ça a été une logique d'évacuation par l'égout, juste à l'aval des villes, la plupart du temps. Alors, pas au début, hein. Au début, on a fait des champs d'épandage à Paris, dans l'idée de valoriser ces matières.
Ouais.
Mais après, avec l'avènement des engrais de synthèse, donc là, on est au début du XXe siècle, on a de plus en plus une évacuation de ces matières. Alors, la logique de retourner ces matières au sol, elle est en fait présente dans les esprits encore très fortement au milieu du XXe siècle, bien qu'on ait de plus en plus de logiques linéaires, parce qu'on a entre autres des ressources fossiles qui permettent de circonvenir à ces logiques.
Pour les engrais de synthèse, donc.
Voilà, les engrais de synthèse. En fait, ce n'est que vraiment dans les années 70 qu'on assiste à la fin, on va dire, des logiques de retour au sol de ces matières, alors même qu'elles continuent encore un petit peu, mais vraiment de façon très marginale, et en même temps, à la réémergence de l'intérêt pour le sujet qui est désormais appelé alternative. Alors
ouais.
Qu'en fait, c'était la norme au début du XXe siècle.
C'est ça.
En 1970, on l'appelle alternative. Et donc en France, entre 1970 et 2010, on est vraiment dans un secteur des alternatives qui se développent, donc beaucoup d'initiatives citoyennes. Il y a aussi des petites entreprises, mais il y a beaucoup d'associations, de gens qui le font à leur propre échelle. Et à partir des années 2010, il y a une appropriation un peu plus grande, dont une des premières formes d'institutionnalisation, c'est la recherche publique.
Ouais.
Et effectivement, en parallèle de collègues qui travaillent à l'INSA de Toulouse, le programme OCAPI a été le premier programme de recherche académique qui soit intéressé, on va dire sérieusement, au fait que urine et matière fécale puissent être gérées potentiellement autrement, en tout cas dans une logique de retour au sol de leur valeur nutritive.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un vrai débat qui s'est ouvert sur la question, on peut le dire comme ça ?
Alors si c'est le cas, j'en suis ravi, parce que je pense que depuis 10 ans, ce que le programme OCAPI essaie de faire, c'est de remettre le sujet en débat, parce
ouais.
que urine et matière fécale sont typiquement un impensé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé aux toilettes, ça disparaît, et globalement on ne sait pas ce qu'il y a.
Ouais.
Or les problèmes, on va dire, environnementaux de façon générale, sont liés à une certaine forme de déconnexion avec nos questions environnementales. Donc notre objectif principal, c'est de favoriser cette reconnexion. Et peut-être un témoin de l'émergence de l'intérêt pour le sujet. D'une part, dans le programme OCAPI, il y a eu énormément de travaux qui ont pu se développer en recherche, mais également en termes de réalisation. Il y a tout un tas d'acteurs fédérés au sein du réseau de l'assainissement écologique qui mettent en œuvre ces choses. Et au niveau de la puissance publique, on a des acteurs partenaires du programme OCAPI comme l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui a voté des subventions pour la mise en œuvre de ce système, l'ADEME également, ainsi que tout un tas de collectivités territoriales qui mettent déjà en œuvre aujourd'hui cette réémergence d'économie circulaire.
On va voir concrètement comment justement on peut valoriser donc ces excrétions. Vous dites qu'il faut rapidement s'y intéresser parce qu'il y a aussi une question géopolitique finalement derrière ce sujet. Hein.
Oui, alors... Pour produire de la nourriture à partir d'un champ, il faut que on puisse donc extraire de la nourriture. Donc typiquement, prenons du blé. Ce blé, ensuite, il va être consommé par des personnes. Donc les nutriments vont se retrouver dans le corps et puis ensuite, ils vont être intégralement excrétés. Donc on les retrouve dans les urines et matières fécales. Or, si on cultive sans apporter d'engrais, le champ va s'appauvrir au fur et à mesure puisqu'on exporte à chaque récolte. Donc il faut retourner d'une manière ou d'une autre. En France aujourd'hui, le mode majoritaire d'apport d'azote, qui est le principal engrais, c'est les engrais de synthèse. Alors, pour produire des engrais de synthèse, aujourd'hui, on utilise quasiment exclusivement du gaz naturel, donc qui est fossile. Quand on l'utilise pour produire des engrais de synthèse, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, donc il y a déjà un très grand problème environnemental. Mais en plus, la production d'engrais de synthèse azotés en France est totalement dépendante de l'étranger, puisque soit on importe les engrais de synthèse souvent depuis des pays gaziers, soit on importe le gaz pour les produire chez nous, mais dans les deux cas, on est totalement dépendant.
Donc on va puiser dans une énergie fossile et en plus, on va émettre du CO2.
Alors c'est ça, si on reprend l'histoire de la gestion résiduelle des matières fécales, à partir des années 70, on les évacue. Alors, pour beaucoup, elles étaient rejetées directement en rivière, mais face à la dégradation de la qualité des rivières que ça entraîne, on a mis en œuvre des traitements. Et vu le taux de dilution des matières, puisqu'on utilise beaucoup d'eau chaque jour pour la douche, pour la cuisine, etc., finalement, la seule procédé qu'on arrive à faire pour l'azote, c'est un procédé destructif. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, il y a quand même des bouts de stations d'épuration qui sont retournées sur les champs, mais elles ne contiennent que 10% de tout l'azote qui était en entrée. Donc en fait, on a un système où on va dépenser à peu près autant d'énergie et émettre autant de gaz à effet de serre pour synthétiser de l'azote que, à l'aval, le détruire dans les stations de traitement des eaux usées.
Un contexte de sécheresse, de dépendance énergétique, de fragilité agricole, d'utilisation abusive de l'eau, tout ça, ça justifierait que justement, on se penche très sérieusement sur cette question de... Alors, d'ailleurs, de urine et aussi excréments, ou c'est plutôt l'urine quand même qui vous intéresse ?
Alors, donc oui, il y a un intérêt très fort, effectivement, à reprendre... les bénéfices multiples, que ce soit sur l'eau, sur les questions environnementales, gaz à effet de serre, mais évidemment sur la qualité des rivières, de nos excrétions humaines. Alors, entre urine et matière fécale humaine, les deux sont, je dirais, intéressantes d'un point de vue agronomique, mais si elles présentent des enjeux aussi de santé, de salubrité. Il y a un intérêt plus particulier qui s'est fait sur les urines, en particulier en France depuis 10 ans, du fait qu'elles concentrent la majorité des nutriments. Donc les nutriments intéressants en agriculture, c'est l'azote, le phosphore, le potassium. Mmh. Typiquement, l'azote, il est excrété à plus de 80% dans l'urine. Parfois, c'est un peu contre-intuitif, mais la majorité de ce que le corps excrète, c'est dans notre urine, un liquide qui est assez concentré. Alors finalement, il y en a moins dans les matières fécales. Ce qui fait que, quand la logique est une logique de valoriser le mieux possible ses ressources pour l'agriculture, beaucoup de filières se tournent vers l'urine, qui en plus a l'avantage de pouvoir être collectée par des tuyaux, donc c'est assez simple de la collecter. Et puis, l'urine présente aussi très peu de risques de salubrité par rapport aux matières fécales.
On y reviendra évidemment.
Voilà, ce qui fait qu'il y a beaucoup de contextes de déploiement de la séparation de l'urine.
Fabien Esculier, vous m'avez apporté un petit paquet de gâteaux, je vous en remercie d'ailleurs beaucoup, que je vais ouvrir aujourd'hui. Et alors, sur ce paquet est indiqué les biscots d'or, hein, c'est le nom de ces biscuits, sont préparés avec de la farine boucle d'or, dont le blé était cultivé grâce à un engrais à base d'urine humaine. Donc ça se commercialise aujourd'hui ?
Alors, ces biscots d'or, ils ont été créés à l'occasion du premier programme de recherche, enfin projet de recherche que nous avons fait sur des questions agronomique. Ouais. Donc il y a eu des terres cultivées sur le plateau de Saclay en partenariat avec l'INRAE, la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, pour tester la fertilisation à l'urine des urino-fertilisants, donc les matières fertilisantes qu'on peut faire à partir de l'urine, parce qu'on traite toujours l'urine. Hein. Le plus simple, c'est le stockage, mais sinon il y a des traitements qui vont faire de la concentration, qui vont faire de l'extraction de certaines matières, etc. Et donc dans cet essai, à la fin de l'essai, on a dit on vient de fertiliser des champs de blé avec de l'urine humaine, qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais. Et finalement, il y a un boulanger qui nous a dit extraordinaire opportunité de le poser pour le débat finalement. Et l'ouverture qu'on y voit, c'est en fait, est-ce que quelqu'un sait comment a été fertilisé le blé ou les biscuits qu'il consomme ?
Ils sont très bons d'ailleurs, ces biscuits, je suis en train de manger en même temps que je vous écoute, ils sont très très bons.
On a cherché un goût neutre pour justement montrer qu'on ne goûte jamais l'urine de vache ou bien l'engrais de synthèse quand on mange un biscuit, et pourtant c'est potentiellement ce à quoi il a été fertilisé.
Ouais, ouais.
Et donc là, l'idée, c'est vraiment de remettre sur la table, proprement, le débat de la fertilisation.
Et c'est même un argument de vente pour vous, puisque c'est indiqué directement sur l'étiquette de ce
pour l'instant, c'est une association à but non lucratif qui s'appelle Circulus, qui gère la distribution de ces biscuits, mais donc c'est pas un
très
commerce,
bien.
On va dire.
Ils sont très bons, ces petits gâteaux. Allez, on se retrouve dans un instant. Fabien Esculier, vous qui êtes chercheur à l'École nationale des ponts et chaussées, pour parler d'urine comme ressource, et puis vous répondre au message qui arrive sur franceinter.fr. A tout de suite.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans l'Union européenne, nous sommes 446 millions à faire pipi plusieurs fois par jour. Résultat, chacun d'entre nous produit en moyenne un litre d'urine quotidiennement. Et comme nous tirons la chasse d'eau, ce sont à chaque fois entre 3 et 6 litres d'eau souillée, qu'on appelle les eaux vannes, qui partent ensuite dans les égouts ou dans les fosses septiques. En tout, dans l'UE, on estime que chaque année, 240 milliards de litres d'urine sont mélangés à 2900 milliards de litres d'eau potable.
Voilà les économies d'eau possibles, cette vidéo du Monde.fr de Karim Eladj avec vous, Fabien Esculier, chercheur donc à l'École nationale des ponts et chaussées, pour parler de l'urine comme ressource. Vous avez publié d'ailleurs des calculs sur l'apport que pourrait représenter précisément la collecte de l'urine à l'échelle de la population.
Alors, il y a eu tout un tas de travaux depuis 10 ans au sein du programme Okapi. D'ailleurs, en septembre, on va faire un séminaire qui fête les 10 ans du programme Okapi à l'École des ponts et chaussées à Champs-sur-Marne. Peut-être plus récemment, tout récemment, les derniers travaux que nous avons faits sur le sujet, c'est la thèse de Thomas Stark qui a été soutenue à l'automne dernier, dans lesquelles il estime le potentiel de la contribution des urines et matières fécales humaines à l'agriculture française dans un scénario, on va dire, agroécologique, dans lequel, en fait, on a comme condition l'exclusion totale des engrais de synthèse azotés et l'exclusion totale des importations de fourrage. Et en fait, on montre qu'on peut nourrir toute la population française et même continuer à exporter. Et dans ce scénario, la fertilisation provenant des urines et matières fécales humaines représente à peu près un tiers de toute la fertilisation des terres en azote.
Mais ça voudrait dire quoi ? Qu'il faudrait que chaque Français donne son urine ou ça peut être quand même plus modeste ?
Alors, on est rentré depuis plusieurs décennies dans un système de mélange avec l'eau. On l'a dit tout à l'heure, à nouveau, ça souille l'eau, et surtout, ça consomme de l'eau, mais surtout, ça la souille. Ça pollue aussi les milieux aquatiques, et ça permet très peu de la valoriser. La question serait de savoir, est-ce qu'on peut faire avec les infrastructures existantes et les habitudes existantes, tout en valorisant ? Notre hypothèse au sein du programme Okapi aujourd'hui, c'est beaucoup que les possibilités de ce côté-là sont assez limitées. Les travaux de recherche qui ont essayé de voir comment on pouvait extraire montrent que, de toute façon, d'un point de vue thermodynamique, il fallait dépenser beaucoup d'énergie une fois qu'on a dilué 100 fois une ressource pour essayer de la récupérer. Et donc, là où il y a le plus d'espoir en termes de possibilités, c'est effectivement une séparation à la source, c'est-à-dire ne pas collecter conjointement urine et matière fécale humaine. On vient, depuis le 1er janvier 2024, de l'adopter pour les biodéchets, en disant si on veut valoriser des biodéchets, il convient de ne pas commencer à les mélanger avec d'autres matières. De la même manière, avec urine et matière fécale humaine, la séparation à la source nous paraît être la voie la plus prometteuse.
Sauf que la source, c'est la maison, finalement. Donc, c'est d'autant plus difficile parce que nos infrastructures, elles ne sont pas du tout prévues pour aujourd'hui.
Exactement. Et
donc, ça nécessiterait de tout changer.
Le changement est considérable, de la même manière que quand on a commencé à avoir le tout à l'égout qui s'est déployé en ville.
À quel moment, d'ailleurs ?
Alors, si on prend l'exemple de Paris, donc on avait expliqué tout à l'heure que le tout à l'égout n'était pas possible parce qu'il fallait valoriser ces matières. Mais à la fin du 19e siècle, on a testé les champs des pendages. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ensemble les eaux domestiques et les urines et matières fécales sur des champs pour à la fois apporter de l'eau et des urines et matières fécales humaines ? À l'époque, donc, la pratique a été considérée comme valide. Donc on a décidé de collecter urines et matières fécales à Paris par l'égout, ce qu'on a appelé le tout à l'égout, 1894. À l'époque, on donne 3 ans aux propriétaires pour se connecter à l'égout. Il aura fallu plus de 40 ans pour que
ça se mette en œuvre.
Et ça a beaucoup râlé, parce qu'il y avait toute une économie de la vidange.
Les collecteurs d'urine, par exemple.
Exactement. Il y avait une usine de transformation d'urine et matière fécale humaine qui était à Saint-Denis, la plus grande usine de Paris, qui n'a fermé qu'en 1975. Donc c'est quelque chose qui a vraiment perduré très longtemps, qui, du coup, avait moins de ressources à produire pour le monde agricole. Et puis, la logique du tout à l'égout aurait dû consister en des applications sur des surfaces qui sont immenses. Et puis, elle a aussi eu le problème historique du mélange, c'est-à-dire que ces champs d'épandage, qui sont toujours aujourd'hui, ici, sur les plaines d'Achère, de Pierrelaye, etc., on a eu une contamination par des métaux lourds qui venaient soit de l'industrie, soit des toitures, des voitures, en fait, qui ont été mélangés aux urines et matières fécales humaines et qui ont apporté d'autres contaminants. D'où aussi l'intérêt de la séparation à la source en termes de valorisation, je dirais, de la ressource
c'est ça.
La plus précieuse.
Pour rebondir sur ce que je vous demandais, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on n'est pas équipé.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est des perspectives qui sont de long terme. Pour autant, il y a des opportunités extrêmement fortes. Alors, je parlais du réseau de l'assainissement écologique. À partir des années 2000, il s'est beaucoup développé sur les festivals, qui sont des lieux sur lesquels il y a déjà de toute façon des nouvelles toilettes qui sont apportées.
Ouais.
Quitte à les apporter, autant mettre en œuvre des filières qui permettent de les valoriser. Et c'est ce à quoi s'engagent les acteurs du réseau de l'assainissement écologique.
Donc ça veut dire concrètement que les festivaliers, quand ils vont uriner, on récupère en fait leur urine.
Tout à fait. Ensuite, il faut voir festival par festival, mais en tout cas, dans les festivals sur lesquels il y a cet engagement.
Je crois qu'au Vieille Charrue, ça s'est fait, il me semble.
Je ne peux pas vous dire festival
par festival. Si, je crois
festival.
Qu'il y a un festival en Bretagne.
C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Je crois qu'on avait à peu près une entreprise qui se créait par année en France depuis les années 2000 pour mettre en œuvre des filières circulaires sur les festivals. Donc, c'est un sujet.
Donc, le principe de la collecte.
Voilà, tout à fait. Ensuite, on a les toilettes publiques sur lesquelles ça s'est effectivement beaucoup développé. Et puis, bien sûr, la majorité, c'est dans les bâtiments. Et donc, dans ces bâtiments, on a l'habitat individuel, où là, les toilettes sèches se sont beaucoup développées déjà. C'est le contexte numéro un. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, en particulier en milieu rural, ont des toilettes sèches pour des questions économiques, parce que finalement, il est moins cher, on consomme moins d'eau et on a moins de traitements à faire, d'avoir une toilette sèche et un traitement simple des eaux ménagères, plutôt que d'avoir un mélange des matières et puis ensuite un traitement assez complexe dans lequel on valorise peu de choses.
Mais vous avez l'impression que ça se développe vraiment, les toilettes sèches, même en ville ?
Alors, on a fait la première enquête sociologique sur le sujet, qui montre qu'il y a des vraies trajectoires d'acteurs qui s'approprient les sujets, les techniques qui évoluent. Et donc, en milieu rural, il y a un développement qui est assez clair. On n'a pas de chiffres. Il est probable qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes qui ont des toilettes sèches.
Parce qu'en ville, ça reste assez marginal pour l'instant.
Comme je disais, la question économique joue quand même beaucoup. Et en ce moment, il y a un arrêté France Expérimentation sur les filtres à broyat de bois qui vise à tester des possibilités de traitement assez simples des eaux ménagères par des filtres à broyat de bois et qui rendent économiquement très avantageux. Alors, quand on est en milieu dense, effectivement, là, il y a moins de réalisations. Pour autant, on a publié avec l'Institut Paris Région une cartographie en ligne toilette fertile qui recense tout un tas de contextes, y compris denses, dans lequel on met en œuvre
dense,
déjà la séparation.
Donc, c'est-à-dire milieu
urbain, c'est voilà,
ça,
tout à fait.
Ce que vous appelez dense. Hein. Mmh. Parce qu'on voyait dans l'extrait tout à l'heure qu'on diffusait, c'est un litre d'eau par jour par habitant et un gaspillage d'eau propre absolument inouï, parallèlement.
Oui, tout à fait. Donc, il y a la consommation d'eau. Souvent, on est d'ailleurs choqué par le fait qu'elle soit potable. Pour autant, si l'environnement était de bonne qualité, la majorité des eaux qu'on prélève dans l'environnement seraient déjà de bonne qualité.
Ouais.
Donc, on devrait plutôt se poser la question de pourquoi l'eau n'est pas plus facilement potable. Mais au-delà du fait qu'elle est potable, on a cette consommation d'eau qui pose question. Mais ensuite, surtout, le fait qu'on va contaminer cette eau et très peu valoriser les matières qui sont dedans. Il y a un peu de valorisation du phosphore qui est fait par les stations de traitement des eaux usées, mais presque pas pour l'azote ni pour le potassium.
Donc c'est-à-dire qu'elles arrivent en bout de course à réutiliser le phosphore issu des urines ?
C'est ça, le phosphore il peut être précipité et en fait comme l'azote et le phosphore rejetés en rivière posent des pollutions d'eutrophisation, ce qu'on voit typiquement par les marées vertes, on a souhaité limiter les pollutions d'azote et de phosphore dans les rivières en station d'épuration. Donc on a mis en œuvre ces traitements. Comme on épand les boues, il se trouve que le phosphore peut être stocké dans les boues, donc ça induit, je dirais presque de façon involontaire, une amélioration du retour au sol, alors que pour l'azote, il est détruit. Donc finalement, on ne valorise pas cet azote.
À propos d'azote, on va écouter cet archive de 1964, Fabien Esculier, l'épandage des engrais, qui était présenté comme un grand progrès, et c'est normal à l'époque, à la foire agricole de Condon dans le Gers.
Épandez, vous pourrez améliorer le rendement de vos terres. C'est ce qu'a voulu montrer l'Office national industriel de l'azote lors de la 26e foire exposition de Condon dans le Gers à l'aide d'engrais liquides. Et ça s'arrose.
Voilà, ça s'arrose, 1964. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, tout l'enjeu, 60 ans plus tard, c'est de vraiment essayer de se passer de cet engrais azoté. Hein.
Oui, alors, il était mentionné dans l'extrait l'ONIA, l'Office National de l'Industrie de l'Azote. Il est attaché à une usine très tristement célèbre, qui est l'usine AZF. AZF, ça veut dire
Toulouse,
azote fertilisant à Toulouse. Et à l'époque, on fabriquait en France les engrais azotés à partir du gaz qui était en France dans le gisement de Lacq. Aujourd'hui, on n'a plus l'usine et on n'a plus le gisement du gaz de Lacq qui est vide. Donc c'est sûr que le contexte a totalement changé par rapport aux années 60, on n'avait pas la conscience de ces enjeux.
Et on le fait venir d'où alors,
et
ce gaz
aujourd'hui, il venait de Russie en grande partie, il vient des pays gaziers de façon générale, donc Maghreb, Qatar, il vient aujourd'hui en bateau par méthanier des États-Unis également.
Donc il y a urgence à apprendre à limiter l'usage de l'azote de synthèse. Et selon vous, l'urine pourrait répondre à cette demande ?
Oui, car plus généralement, l'engrais azoté de synthèse n'a jamais été une nécessité. Il permet d'augmenter les rendements. Et donc, effectivement, il y a eu un intérêt fort pour la commercialisation des produits agricoles de l'utiliser. Mais par contre, comme je mentionnais dans la thèse de Thomas Stark et tout un tas d'autres travaux, entre autres de Gilles Bilaine, nous avons montré la possibilité de se passer totalement des engrais azotés de synthèse à l'échelle France et Europe pour produire suffisamment pour tout le monde.
Fabien Esculier, il y a des questions, des témoignages pour vous sur la page de la Terre au Carré. Vous y répondez dans un instant.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré.
Les oliviers, les palmiers, vraiment, ils adorent. Urinéo, ils adorent.
L'urine au jardin, ça fait des années qu'il l'expérimente. Il a même sa propre recette. Sur Internet, elle a déjà recueilli près de 500 000 vues.
Donc là, si on prend l'urine maison, donc à ce moment-là, on prend un verre comme ça qui fait donc 25 centilitres, et on met deux verres comme ça dans un arrosoir de 10 litres. Avec ça, donc, on va arroser les plantes tous les 15 jours.
Et ça suffit.
Tout engrais, quel qu'il soit, brûle quand c'est trop concentré et trop fréquemment appliqué.
Voilà, un pépiniériste de Saint-Nazaire-les-Aymes en Isère, c'était en août 2019, Fabien Sculier. Vous confirmez que même pour les plantes d'appartement, on peut mettre son petit verre d'urine ?
Oui, mais les doses sont très très faibles parce que l'urine, c'est très riche. Donc l'ordre de grandeur, c'est qu'un litre fertilise un mètre carré pour une année.
Oui.
Donc si vous mesurez la surface de votre plante d'intérieur, en fait avec un pipi, vous en avez déjà trop.
Ne pissez pas sur vos ficus, par exemple. Hein.
Oui,
attention.
Mais à toute petite dose.
Petite
et
dose.
Justement, c'est là qu'on se rend compte de la richesse qu'on a. On a autant de nutriments dans nos excrétions qu'il y en avait dans la nourriture qu'on a amenée dans la maison. Donc il faut organiser la logistique des valorisations.
Où est-ce qu'on en est par rapport à nos voisins européens sur cette question-là qui a mis un peu de temps à arriver dans le débat public ?
Oui, alors, la France s'est beaucoup mobilisée sur le sujet, comme j'expliquais, par des acteurs en festival particulier, etc. Pendant que dans les années 90, en Suède, ça s'est beaucoup développé aussi à l'échelle institutionnelle, et dans les années 2000 aussi.
C'est-à-dire
qu'il y a eu de la recherche, des collectivités locales, il y a eu des acteurs publics qui ont soutenu le développement du sujet, ainsi qu'en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et depuis les années 2010, on assiste au fait que la France a de plus en plus travaillé sur cette question de la séparation à la source. Et finalement, il y a énormément de collaboration à l'échelle européenne sur ces sujets. Plutôt des pratiques de sous-vide pour des collectes d'urine et matières fécales en Allemagne qui ont été développées. Les techniques varient, on va dire, selon les pays. Mais je dirais un sujet sur lequel maintenant France, Allemagne, Suède sont peut-être les trois pays, ainsi que la Suisse, avancés sur la question.
C'est un sujet à prendre au sérieux parce que vous écrivez qu'il y a des enjeux de souveraineté alimentaire derrière cette question.
Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, effectivement, la France est totalement dépendante des importations pour pouvoir produire sa nourriture. Et on a effectivement la capacité, entre autres avec les urines et matières fécales humaines, mais bien sûr pas que, je pense entre autres à la fertilisation par les légumineuses, les engrais verts, comme on les nomme parfois, qui permettent d'être beaucoup plus souverains sur notre production alimentaire.
On va passer aux questions parce qu'elles sont très 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 nombreuses pour vous. Alors, sur la question de la sécurité aussi, de la réglementation, il y a Marie-Laure qui vous demande quid de la pollution et des risques avec les résidus médicamenteux, antibiotiques évacués dans les urines et les matières fécales. Alors, évidemment, tout le monde se pose cette question, Fabien Sculier.
Tout à fait, c'est un sujet très important pour le programme OCAPI depuis 10 ans. Toute matière fertilisante présente des indésirables. On peut penser par exemple au cadmium qu'il y a dans les engrais phosphatés, on peut passer dans les bouts de stations d'épuration, je parlais des métaux lourds qui ont été mis sur les champs d'épandage. On peut penser sur les lisiers, les fumiers animaux, aux médicaments qu'on donne aux vaches, aux cochons, aux
antibiotiques.
Etc., qui sont mis sur les champs. Donc dans le programme OCAPI, nous avons fait beaucoup d'études sur le devenir de ces molécules et nous avons même rédigé une note complète qui est disponible en ligne sur le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas de mesure de ces quantités de molécules qu'on retrouve, en particulier résidus pharmaceutiques, qui soient dans des quantités telles que ça empêche de l'utiliser par rapport à des quantités qui seraient trop élevées. Mais pour autant, il y a une variété très grande de molécules et donc on n'arrive pas non plus à dire voilà le seuil auquel il y aura un risque, donc on est sur une impossibilité de statuer. Alors pour l'instant, il y a uniquement un avis officiel qui est celui de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dans son avis de 2012 dit que eu égard aux pratiques qu'il y a par ailleurs, c'est-à-dire que ces matières finissent beaucoup les médicaments en rivière, qu'il y a aussi des médicaments dans les urines et matières fécales animales qu'on met sur les champs, qu'on les retrouve aussi dans les boues. L'OMS dit finalement, il vaut mieux retourner au sol les urines et matières fécales humaines, même s'il y a cet indésirable, parce que les bénéfices généraux sont très importants et qu'il n'y a pas d'effet qu'on a pu mesurer qui soit de nature à l'empêcher. Je pense entre autres à un essai de long terme au Danemark où les urines humaines sont épandues depuis 20 ans. Et qui n'a pas mesuré de différences significatives dans les populations, entre autres de vers, dans le sol. Donc voilà, c'est des éléments dont on dispose aujourd'hui et on souhaite y travailler encore largement.
Alvan, justement, nous dit, est-ce qu'on ne risque pas de manger des tomates hallucinogènes à récupérer les urines des festivaliers et les lombrics ? Comment réagissent-ils à ces produits ?
Eh bien, donc... C'est ce que j'ai indiqué avec cet essai de long terme qui a été fait au Danemark. Pour l'instant, on n'arrive pas à les mesurer. Sur la plupart des molécules, en fait, il y a une dissipation qui va se faire dans les sols. Soit c'est donc la microbiologie du sol, les rayons aussi solaires vont agir. Mais il va y avoir un certain nombre de molécules pour lesquelles on peut trouver des résidus. Certains chercheurs, en Allemagne en particulier, ont réussi à mesurer parfois des transferts à la plante. Mais les quantités sont infinitésimales. Donc on était sur, de mémoire, 500 000 kg, donc plusieurs millénaires d'ingestion de plantes fertilisées à l'urine humaine
pour avoir
l'équivalent d'un cachet de paracétamol. Pour avoir l'équivalent d'un cachet de paracétamol. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais on n'est pas en capacité...
C'est ultra dilué, finalement.
Et sachant aussi qu'il y a des personnes qui développent des procédés de traitement Si on veut traiter ces résidus médicamenteux, on les traitera toujours mieux si c'est concentré.
Carole est parisienne, elle serait intéressée par l'installation de toilettes sèches dans son appartement. Est-ce possible, légal, et vers qui se tourner pour étudier la faisabilité et le coût?
Alors oui, c'est légal, oui, c'est possible.
Il y a un avis, c'est légal partout.
Il y a un avis même qui a été fait par le ministère de l'écologie sur la possibilité d'avoir des toilettes sèches en zone urbaine. On est obligé d'être connecté à l'égout, mais on n'est pas obligé d'y envoyer ses urines et matières fécales humaines. Il y a un exemple donc qui a été lancé par le programme OCAPI qui s'appelle le projet En Ville, à Châtillon, un point d'apport volontaire d'urine humaine. Donc, il est organisé avec une AMAP, Association pour maintenir l'agriculture paysanne. Donc les gens viennent chercher leurs légumes auprès d'un agriculteur et à cette occasion-là, ils apportent leur urine. Donc là, il faut organiser ces filières, on a un besoin extrêmement fort d'une implication de la puissance publique, un peu comme pour les composts de proximité, pour qu'il puisse y avoir un accompagnement de ces différentes filières qui ont du mal à émerger spontanément.
Il n'y a pas un réseau national aujourd'hui de récupération des urines.
Il n'est pas organisé de façon très générale, mais il y a tout un tas d'initiatives un peu partout. Et je mentionnais les agences de l'eau, je mentionnais l'ADEME, c'est des structures qui aujourd'hui essayent d'aider, d'inciter, entre autres financièrement, les acteurs qui veulent s'approprier ce sujet. Probablement, il va falloir monter aujourd'hui en échelle au niveau national sur la structuration d'une politique publique pour permettre l'émergence.
Mélane demande comment récupérer l'urine et les matières fécales des trains, par exemple, plus généralement dans les endroits publics. Pourquoi ne pas séparer les urinoirs, au moins les hommes et les WC?
Alors, de façon très générale, il y a des freins qui sont des freins de connaissance. Donc les acteurs, en fait, ne savent pas qu'on peut valoriser ces matières. Donc là, entre autres, le but de cette émission, c'est de lever ce frein de connaissance. Une fois qu'on est au courant, allons-y. Mais une fois qu'on est au courant, on a besoin d'apprendre comment faire. Un frein d'apprentissage. Ensuite, il faut s'organiser parce qu'il va falloir valoriser ces matières en agriculture, donc faire communiquer des acteurs qui ne sont pas nécessairement toujours en lien, parce qu'on aura des acteurs urbains d'un côté, des acteurs agricoles de l'autre, qui se sont séparés, comme l'avait dit Sabine Barle, avec le XXe siècle. On a plus d'économie mutuelle, circulaire, on a disjoint. Et puis ensuite, il y a un problème économique du fait que ceux qui payent les coûts de gestion des matières ne sont pas nécessairement ceux qui vont avoir les bénéfices économiques de leur meilleure valorisation. Donc il va falloir que la puissance publique organise des transferts autour de économiques pour permettre qu'il y ait une viabilité.
Laurent demande pourquoi ne pas aller prendre les effluents des exploitations porcines de l'ouest de la France. Eux en produisent des grandes quantités et doivent s'en débarrasser. Ce serait gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Alors, pour avoir les élevages intensifs qu'on a dans l'ouest de la France, on est surtout extrêmement dépendant des importations de fourrage qui proviennent d'Amérique du Sud, en partie de la déforestation de l'Amazonie. Le grand enjeu dans le respect des limites planétaires, c'est d'arriver à avoir une agriculture qui soit soutenable sur tous les plans. Oui. Et ce modèle donc est participatif d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions d'azote dans l'environnement de façon importante. Donc la premier objectif, je dirais, c'est surtout de réduire l'ampleur des pollutions, gaz à effet de serre et azote qui sont produits, avant, je dirais, celui d'avoir une économie qui tourne encore plus, parce que, évidemment, la circularité est intéressante. Mais on a presque toujours, dans les logiques de transition écologique, on met d'abord l'idée qu'on va faire de la circularité. Or, en pratique, elle se passe très très peu. Ce qui se passe, c'est surtout une augmentation de la quantité totale des flux. Ce dont on a besoin, c'est de réduire les flux, c'est de sobriété.
Donc, et ce que vous dites, c'est que finalement, ça ne fait qu'alimenter le système qui est lui-même délétère pour l'environnement.
En tout cas, c'est un risque extrêmement fort. Sur les questions des régimes alimentaires, qui est à la base des questions agricoles, aujourd'hui, on a une consommation de produits d'origine animale qui est extrêmement élevée en France, qui est largement supérieure à nos besoins, qui induit entre autres des problèmes de maladies. Je pense aux viandes rouges, je pense aux charcuteries, qui sont pointées depuis maintenant longtemps par les organismes publics. Et donc, on a un intérêt collectif à baisser les quantités de protéines animales qui sont consommées et donc qui sont produites avec des bénéfices environnementaux très forts, ainsi que sanitaires pour notre santé.
Un témoignage de Clémence, j'ai des toilettes sèches, nous écrit-elle, dans mon jardin, je passe vraiment pour une folle auprès de mes collègues et de mes voisins, j'exagère un peu mais quand même, ce sont des toilettes sans séparateur d'urine, je me demandais si c'était peut-être mieux de faire une séparation d'urine en termes personnels, et est-ce que si tout le monde s'y mettait avec des toilettes sèches, ça ne serait pas quand même beaucoup mieux?
Alors, si on a urine et matière fécale gérées ensemble, c'est comme du fumier à l'étable. C'est la pratique très classique pour les animaux en agriculture. C'est une pratique qui fonctionne, je dirais, en termes de produire un compost. En revanche, elle peut être moins efficace sur la valorisation de l'azote, parce que dans le fumier, dans le compostage de façon générale, on a un risque qu'il y ait beaucoup d'azote qui parte soit en volatilisation dans l'air, soit en lessivage dans le sol. Donc il faut absolument couvrir les composts pour pas qu'il y ait la pluie qui tombe dessus, en particulier pour les composts d'excréments humains, et que ça lessive vers la nappe. Et donc, souvent, il y a aussi une praticité qui fait qu'on sépare les urines parce qu'on peut les collecter par tuyau et ensuite avoir une cuve qui permette sa valorisation par un agriculteur.
Deux messages pour terminer, Pascal. Lorsque j'ai commencé à travailler en 1978, dans la plupart des entreprises, il y avait des urinoirs qui collectaient les urines dans des bidons. Quelle en était la destination? Pourquoi ne trouvons plus ce type de collecte? Est-ce que vraiment, en 1978, on avait autant d'infrastructures?
Alors, nous sommes très intéressés pour connaître tout ce qu'il y a pu avoir. Ça ne me dit rien de particulier. Ouais. En tout cas, sur le site Toilettes Fertiles, comme j'indiquais, il y a tout un tas de projets actuels qui tournent aujourd'hui en France et qui montrent que c'est possible. Donc, on peut s'en inspirer et on est très preneurs, écrivez-nous, d'expériences passées qui ont existé.
On va mettre tout ça en lien, évidemment, sur la page de la Terre au Carré. Et puis, on termine avec le message d'Étienne qui nous écoute en étalant dans sa serre du fumier à la fourche. Merci, dit-il. Ben, on le salue. On en profite également. Merci beaucoup, Fabien Esculier, d'être venu aujourd'hui au micro de la Terre au Carré. Merci pour ces biscuits, ces biscots d'or, donc faits à base d'urine humaine, qui sont très, très bons d'ailleurs. Et puis, merci à Emma Bouvier qui a préparé ce dossier aujourd'hui. À bientôt.
Merci à vous.
Merci à vous.